Devant toi, Seigneur, je répands mon âme. Devant toi, Seigneur, je répands mon âme. Ô mon Dieu, je suis à toi. Je me confie en toi, conduis-moi dans la voie de la vérité.
Bien chers amis auditeurs, salut et paix chez vous au nom du Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Merci d'être nombreux à l'écoute de notre émission En sa présence. Une émission du Centre biblique présentée par votre serviteur,
Danny Wechai.
Nous allons aujourd'hui progresser dans notre méditation sur la lumière et peut-être aussi, d'une certaine manière, pouvoir la terminer. La fois dernière, nous avons réfléchi, partant du verset 5 du premier chapitre de la Genèse, au fait qu'il eut un soir, il eut un matin. Ce fut un jour. En évaluant ces paroles, nous avons insisté sur la pensée selon laquelle notre vie est mêlée de soir et de matin. Le soir était ténèbres et le matin lumière. Pourtant, les deux sont regroupés sous le nom donné à la lumière seule, c'est-à-dire jour. Notre vie est-elle faite de haut et de bas, de noir et de blanc, de sombre et de clair, d'amertume et de réjouissance, de péché et de justice, de joie et de tristesse, d'échecs et de réussite, des chutes et de victoires? Eh bien, Dieu pour sa part voit tout cela en Christ et le considère comme étant lumière et non ténèbres, comme jour et non nuit. Maintenant, lisons dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 5, au verset 8 jusqu'au verset 9. Verset 8 d'abord. Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants des lumières. Verset 9. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Enfants de lumière. Eh bien voilà ce dont nous allons nous entretenir ce matin. Le chrétien a une identité de distinction. Il est premièrement enfant. Ce qui veut dire qu'il n'est pas esclave. Il n'est pas non plus un bâtard, c'est-à-dire un enfant illégitime qui ne connaît pas celui qui l'a engendré. Le chrétien a un père. C'est Dieu lui-même qui l'a engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Deuxièmement, il est un enfant des Lumières, parce que le Dieu qui est son père est le Dieu de Lumière. Ne vous y trompez pas, mes bien-aimés, dit Jacques, le frère du Seigneur Jésus, dans son épître, au chapitre 1er, au verset 16 et 17. Tout don parfait et toute grâce excellente viennent d'en haut, du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ne dit-on pas tel père, tel fils? Le prophète Ézéchiel rend cette expression au féminin quand il dit au chapitre 16 de son livre, au verset 44e, ceci, je lis. « Voici que tout faiseur de proverbe t'appliquera ce proverbe, telle mère, telle fille. » Ce verset établit l'identité de nature qui existe toujours entre le père et son fils, entre la mère et sa fille. Ainsi, comme Dieu est lumière et qu'il n'y a pas en lui de ténèbres, ce que nous voyons dans 1 Jean, chapitre 1, au verset 5, eh bien, ce Dieu a fait pour nous quelque chose de merveilleux. Alors quoi? On le trouve dans Colossiens, au chapitre 1, verset 12e et 13e. Je lis, « Avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de saints dans la lumière. » Dans la lumière. Vous voyez, nous ne sommes pas seulement enfants, mais enfants et aussi héritiers. Il y a dans ce monde des enfants qui ont tout perdu à la disparition de leurs parents. soit parce que les proches parents ont tout ravi, soit parce que les parents ne leur ont rien légué. Tout ce que Dieu a est pour nous qui sommes ses enfants. Et puisque ces enfants sont les enfants de lumière, ils ont part à leur héritage, mais dans la lumière. Dans la lumière, pas dans les ténèbres. Dans certaines familles, malheureusement, la prise de part ou l'entrée en possession de l'héritage se fait dans les ténèbres, les plus noires, c'est-à-dire avec beaucoup de favoritisme, souvent d'une manière opaque, sans transparence. Et finalement, ce sont des conflits interminables et mortels qui s'ensuivent. Le résultat final, c'est que même l'héritage lui-même est ruiné. Il y en a qui lèguent à leurs enfants des pouvoirs occultes, et cela se fait dans les ténèbres. D'autres ont des promesses d'héritage tout à fait illusoires. Illusoires. L'anecdote d'un kamikaze palestinien qui s'est fait exploser devant les soldats israéliens dans l'espoir d'avoir cette vierge dans le ciel. Cet exemple-là, je pense, parle fort. Je vous raconte comment cela s'était fait. Ce kamikaze était devant les militaires israéliens et comme il n'était pas mort dans l'explosion, il a été emmené par la police israélienne dans un hôpital israélien ultra moderne. Une fois sorti du coma et sans se douter bien sûr qu'il était encore sur la terre, le kamikaze, se croyant déjà au ciel, se mit à jubiler, à se frotter les mains tout en réclamant à haute voix qu'on lui présente les 7 jeunes filles vierges promises dans l'au-delà. Vous voyez, il était plongé dans une promesse d'héritage tout à fait illusoire. Qu'est-ce que Dieu, notre Père, a fait encore pour nous? Eh bien, au verset 13 de ce chapitre de Colossiens, voilà ce qu'il nous est dit. « Il nous a délivrés du pouvoir de ténèbres, et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Les ténèbres n'auront plus jamais d'emprise sur les enfants des dieux. Quand il fut sur cette terre, le Seigneur a, pour une fois, volontairement laissé le pouvoir de ténèbres s'acharner contre sa personne et se saisir de lui. C'est ce que nous voyons dans l'évangile de Luc, au chapitre 22, au verset 53. Le Seigneur dit ceci, « J'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et le pouvoir de ténèbres. » Quand il était crucifié et qu'il expiait nos péchés durant les 3 heures sombres, c'est-à-dire de la 6e heure à la 9e heure, soit de midi à 15 heures, il eut des ténèbres sur toute la terre, le soleil s'obscurcit. Mais d'un autre côté, le voile du temple, synonyme de ténèbres, qui nous empêchait d'accéder à la présence de Dieu de lumière, oui, ce Dieu qui habite une lumière inaccessible, eh bien ce voile fut déchiré et nous fûmes transportés dans la sainte présence des dieux et mis constamment en faveur devant sa face royale. Aucun pouvoir de ténèbres n'est peu à assujettir les enfants des dieux, qui sont les enfants de lumière. Alors, à présent, compte tenu de cette noble identité, compte tenu de cette céleste position, ainsi que de ce privilège de la liberté, quelle est notre responsabilité respective? Le verset 12 de ce premier chapitre des Colossiens dit ceci. « Avec joie, rendez grâce au Père. » C'est ce que nous avons lu précédemment. Le chrétien a la responsabilité d'être reconnaissant à Dieu et de lui apporter la louange avec joie. Sortons de nos mauvaises dispositions naturelles qui consistent à toujours murmurer. Quand il fait chaud, on murmure. On souhaite qu'il pleuve. Et quand il pleut, on murmure de nouveau, souhaitant qu'il fasse chaud. Quel cercle vicieux! Non, marcher aujourd'hui, chers frères et sœurs, dans la puissance de la reconnaissance envers Dieu. Marcher comme enfant de lumière. Une maman s'est promenée avec son petit enfant au marché et elle constate à un moment donné que le petit garçon convoitait des oranges que vendait une dame à côté. La vendeuse d'oranges, voyant combien l'enfant était envieux, a eu la générosité de lui en donner une. Alors sa maman, c'est-à-dire la mère de ce petit garçon, posa à ce dernier la question suivante. « Mon petit chéri, que dis-tu à la gentille dame ?» Le petit garçon, sans rien dire, en tout cas sans rien dire, tendit simplement la main avec l'orange vers la maman donatrice ou bienfaitrice en disant « Pèle-la moi » c'est-à-dire « Pèle-la, pèle l'orange pour moi ». Voilà l'ingratitude du cœur humain. Notre responsabilité est aussi ce qui ressort du verset 9 du chapitre 2 de la première épître de Pierre que nous allons lire. Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Annoncer les vertus de celui qui nous a appelé des ténèbres à son admirable lumière constitue un des buts pour lesquels Dieu nous a appelés de ténèbres. Les ténèbres avilissent les hommes. La lumière nous rend vertueux. Annoncer les vertus de la lumière, c'est proclamer le nom de Christ aux hommes. C'est publier ses œuvres d'amour, des bontés, vanter ses mérites, son pouvoir rédempteur, témoigner de ses caractères de douceur, de grâce, de miséricorde, qui dira toujours, de ses compassions qui ne tarissent jamais, de sa vérité qui affranchit. Le monde entier gît encore dans les ténèbres et a besoin de Jésus-Christ, la vraie lumière. Le siècle des Lumières et ses philosophes n'ont pas changé le monde et ne peuvent même pas changer les hommes au point de le sauver du péché. Bien avant eux, des philosophes comme Socrate en Grèce antique prétendaient que tout criminel n'est qu'un ignorant. Il suffit de lui donner la science ou la connaissance pour le rendre vertueux. Erreur, car combien d'hommes, malgré leurs immenses connaissances, ne sont-ils pas encore liés par les ténèbres du péché? D'éminents médecins, des célèbres avocats, de magistrats brillants, d'ingénieurs brillants, courent ça et là, cherchant des loges d'initiation à la lumière, partant de Maïgari, de messages d'Igral, de la science chrétienne, des cancars, jusqu'à la Rose-Croix, et ainsi de suite, ils ne peuvent nullement, alors nullement, trouver la vraie lumière. Car la vraie lumière, dit la Bible, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ étant la vie, comme il dit dans Jean chapitre 14 au verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie », eh bien, la vie est la lumière du monde. La mort, c'est un gouffre, un immense gouffre de ténèbres. Mais la vie, quand on y entre, on est dans la pleine clarté de la lumière. Alléluia. Enfin, notre responsabilité, en tant qu'enfant des Lumières, est de marcher comme tel. Marcher comme tel. Marcher signifie deux choses. D'abord, c'est vivre. Marcher, c'est fonctionner, c'est s'activer, c'est se produire en tant que lumière du monde. La Bible ne dit pas « soyez lumière », mais plutôt « vous êtes la lumière du monde ». Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle brille pour tous, pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifie votre Père qui est dans les cieux. Matthieu chapitre 5, versets 14 jusqu'à 16. Trop de chrétiens veulent vivre dans l'anonymat et ont honte de décliner leur identité chrétienne dans leur environnement qui peut être un environnement scolaire ou professionnel. Ils préfèrent être connus sous l'étiquette de leur nationalité, de leur tribu, de leur province d'origine ou tout simplement sous leur fonction ou leur titre académique par exemple. Pourquoi cachent-ils soigneusement ainsi leur identité? Pourquoi? Pourquoi? C'est parce qu'ils ne veulent pas en assumer les responsabilités. Le monde est toujours exigeant à l'égard de quiconque se dit chrétien. S'identifier en qualité de chrétien à l'école, à l'université, dans l'armée, au travail, et peu importe lequel, implique toujours que vous soyez conséquent en ce qui concerne votre témoignage pratique. Avoir une haute confession de foi et en même temps une basse vie pratique ne sert qu'à discréditer l'évangile de Jésus-Christ. Car il vous sera dit de la part de non-croyants ces paroles ironiques. Hein? Vos actes crient plus fort que vos paroles. Vous serez vomis comme l'étaient les pharisiens. En quoi se résume la religion des pharisiens? Eh bien, le Seigneur Jésus répond à cette question dans Matthieu 23, versets 1 jusqu'à 3. Je lis, « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. » Marcher, dans le langage de la Bible, signifie aussi et surtout le fait de progresser, d'aller de l'avant, c'est-à-dire d'avancer tout court. Marcher comme des enfants des Lumières, c'est exceller dans la démonstration de ce qu'est la lumière que nous sommes. Le 16e verset du chapitre 5 de Matthieu que nous avons lu dit que notre lumière brille ainsi devant les hommes. Non seulement il faut que la lampe soit allumée, mais il est aussi nécessaire que sa flamme monte en chandelle, au lieu de rester un lumignon ou une mèche qui fume. Briller, c'est progresser en éclat. Eh bien, pour que la lumière de la vie et du témoignage du chrétien brille fort et davantage, il faut certaines choses. La première de ces choses, c'est la parole de Dieu. Dans le psaume 119, au verset 100 et 5, il est écrit ceci. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Un chrétien qui se nourrit journellement et abondamment de la parole de Dieu rallume sa foi, ravive son amour pour le Seigneur. Parce que le propre de la lumière, c'est quoi? C'est d'apporter l'éclairage. Et cette lumière de la parole de Dieu est vigoureuse. Quand vous lisez la parole de Dieu, elle vous procure du discernement. On peut être dans des situations qu'on pourrait qualifier d'imbroglio, des situations confuses. Mais la parole de Dieu nous aide à avoir de la lumière dans cette situation. L'apôtre Pierre, dans sa deuxième épître, au chapitre 1er, au verset 18, dit ceci, que nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que vienne le jour et que l'étoile du matin se soit levée dans vos cœurs. La deuxième chose, c'est, on pourrait dire, le Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit. L'onction, ça fait allusion à l'huile. Hein? Une lampe a besoin d'huile ou de carburant. Souvenez-vous de la parole de Dix Vierges dans Matthieu 25. Et je vais vous lire quelques versets. Au verset 2, « Cinq d'entre elles étaient folles et cinq sages. » Au verset 3, les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent pas de l'huile avec elles. Au verset 4, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans leurs vases. Au verset 5, au milieu de la nuit, il eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Au verset 7, alors toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Au verset 8, les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Écoutez bien, elles disent, nos lampes s'éteignent. Pourquoi? Eh bien, c'est parce qu'il n'y avait pas d'huile. Au verset 9, les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Seule l'onction du Saint-Esprit, c'est-à-dire sa puissance, vous permettra d'avoir un témoignage puissant et efficace pour Christ dans ce monde hostile. Et cette puissance n'est possible que si vous êtes rempli du Saint-Esprit et si vous vous laissez naturellement conduire par lui. Alors, il vous conduira certainement et sans cesse dans la parole de Dieu, plus la parole de Dieu habite richement en vous, plus vous êtes rempli du Saint-Esprit. Et plus vous serez rempli du Saint-Esprit, plus son onction et son fruit se manifesteront au travers de vous. Ainsi, votre lumière brillera toujours davantage. Les hommes verront vos bonnes œuvres et glorifieront votre Père qui est dans les cieux. Chers amis auditeurs, êtes-vous jamais devenus enfants des Lumières? Si oui, maintenant, marchez comme enfants des Lumières. Recueillons-nous dans la prière. Dieu des Lumières, auprès de toi se trouve la source de la vie. C'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Envoie ta lumière dans la vie de chacun des auditeurs qui a suivi ce message. Entre dans des maisons secrètes où règnent les ténèbres de l'occultisme. Rentre dans des loges noires, dans ce creuset de sorcellerie, de satanisme. Oh, entre dans des maisons de prostitution. Entre dans ces bars où plusieurs sont encore enchaînés par les liens de l'alcoolisme. Entre, oh Seigneur, dans ces endroits des mauvaises vies où se pratique le banditisme et toutes sortes de violences. Eh bien, que ta lumière brille, brille et libère. Viens par ta puissance éclairer nos ténèbres. Viens nous rendre libres. Viens nous transporter dans le royaume de lumière de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. C'est par lui, notre merveilleux Seigneur, que nous te prions. Amen. Avez-vous besoin de contact au sujet de cette émission? Eh bien, vous pouvez appeler Danny Wechai, votre serviteur.
Montre-moi la voie, le chemin à suivre. Montre-moi la voie, le chemin à suivre. Ô mon Dieu, je suis à toi. Je me confie en toi, conduis-moi dans la voie de la vie.